Je voudrais, en guise d'introduction, bien aimé, faire un rappel à la parole inspirée de dimanche dernier qui disait que tu es dans un bon point. Il est vrai que parfois on se sent et on ressent, frères et sœurs, surtout on ressent le besoin de changer de peau. N'est-ce pas? On sent qu'on est serré, on a besoin de sortir de ce corps. On éprouve aussi le besoin de changer de monde, d'environnement. Si c'est bien de changer le monde, carrément. Mais comment faire concrètement? Parce que frères et sœurs, il ne s'agit pas non plus de tout quitter, tout changer, ni même de se lancer des défis fous. Est-ce que vous connaissez ce proverbe qui dit que Rome n'a pas été fait en un seul jour? D'accord. Ça veut dire quoi concrètement? Que certaines choses prennent du temps. D'accord. Et je dirais que, je dis encore ma sœur, plus c'est merveilleux, plus c'est grandiose, plus ça prend du temps. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que notre Dieu fait des bonnes choses? Est-ce que nous croyons que Dieu fait des bonnes choses dans la vie de l'autre? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu fait des bonnes choses dans ta vie? Alors, j'ai entendu un amen ici, et par là, non. Oui, bien sûr. Bien souvent, on voit que Dieu fait dans la vie de l'autre, et dans notre vie, on se dit, bon, j'ai oublié les mains. Est-ce que vous comprenez? Il est beau, frères et sœurs, d'avoir de grands rêves, d'avoir de grands projets. Et je m'annonce, je le dis aux jeunes, mes jeunes, jeunes de l'Église, ayez des rêves. Ayez des projets. Voyez grand. Mon fils, ma fille, je ne sais plus, l'un d'entre eux avait l'habitude de chanter, je n'ai pas peur de toucher la lune. Vous savez, je toucherai la lune, tout de ce genre. Bon, j'ai oublié. Toucher la lune, ça ne fait pas peur. Voilà, merci Nicolas. Toucher la lune, ça ne fait pas peur, tout et tout, et moi, j'étais interpellé par ça, quoi. Il faut voir. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. C'est vrai, dans l'au-delà. Qu'est-ce que la vie de l'homme, hein? Mais je crois aussi que dans cette pensée de l'éternité, il n'y a pas mis de limite. Si tu rêves un jour d'être président, fais tout pour être président. C'est tout. Ne laisse personne t'arrêter. Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est vrai. Et je demanderai à quelqu'un, si une personne veut bien se dévouer à faire lecture, j'ai ma Bible, certes, mais j'ai oublié mes lunettes. Est-ce que quelqu'un veut faire lecture? Pour moi, il y a un premier texte, c'est Genèse chapitre 1, verset 1, et un deuxième qui se trouve dans 1 roi, chapitre 18, verset 41 à 46. Genèse 1, 1.
Au commencement, tu créas les cieux et la terre.
Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième passage, deuxième texte, 1 roi, chapitre 18, versets 41 à 47. Si c'est quelque chose, ça va nous faire plaisir.
D'accord.
Et
il dit à ta terre, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie à ta montagne pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici le petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main de l'homme. Et il dit, monte. Dit à Akab, Athènes, descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Que l'instant de cette sorte subside par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. À ta confiance sur son char, parti pour le suspect.
Amen. Nous avons deux textes au commencement de Dieu, et ce texte nous parle, en gros, de l'histoire de petits nuages. Élie, le prophète, demande à son serviteur de monter. Il monte et ne voit rien. La septième fois, il dit qu'il y a un petit nuage. D'accord ? Je vous propose de replacer ce récit dans son contexte pour bien comprendre. Élie apparaît dans l'histoire du peuple d'Israël à l'époque du roi Akab. D'accord ? Et Akab a une femme qui s'appelle Jézabel. Jézabel, elle est princesse de Tyr. Et qu'est-ce que Jézabel va amener au sein du peuple hébreu, d'Israël? Jézabel va amener, frères et sœurs, l'adoration de Baal. D'accord? Elle va amener, en quelque sorte, l'idolâtrie. Pas en quelque sorte, c'est bien l'idolâtrie que Jézabel va. À partir de là, Dieu est mécontent. Et il traduit son mécontentement au travers de son serviteur Élie. Élie prononce le jugement de Dieu. Il n'y aura pas de pluie en Israël pendant 3 ans, et certains commentateurs disent 3 ans et demi. Ok ? Survint un événement que j'appelle info ou intox. C'est l'événement de qui est Dieu. Avec les prophètes de Baal, vous vous rappelez ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, banco. Si c'est votre Dieu qui est... C'est vraiment de l'info de l'intox, ma sœur. Hein? D'accord, il fallait régler la question. Et il convoque tout le peuple, les prophètes de Baal, et puis on dit, ok, on reste 2 autels. Vous allez chercher ce que vous voulez, tout et tout, et moi, je vais laisser mon hôtel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bouf! Le feu descend du ciel et consume l'Holocauste d'Élie. D'où son surnom, frères et sœurs, concernant Élie, c'est le prophète du feu. Non seulement par les miracles, mais aussi par sa manière de faire. Élie n'avait peur de rien. D'accord? Il ravage tout sur son passage. C'est bon Dieu qui a servi. D'accord? Et on ne peut pas parler des prophètes sans parler d'Élie. À partir de cette dualité entre Baal et l'Éternel, le peuple va reconnaître que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Le texte qu'on vient de lire dans 1 roi s'insère là. D'accord? Et après ce texte, frères et sœurs, il est question de la fuite d'Élie dans le désert. Pourquoi? Parce que Jézabel apprend par son mari, le roi Akab, qu'Élie a vécu les prophètes de Baal. Ok, dans le verset qui suit. Et qu'est-ce qu'Élie fait? Élie prend peur. Et pour sauver sa vie, il s'en va et il va demander la mort. Et c'est la première fois qu'on a dans la Bible l'option du fax. D'accord? Jézabel envoie un fax à Élie. Et quand Élie lit le fax, il se fax. Et il a peur. Revenons, frères et sœurs, concernant le texte de 1 roi au chapitre 18. Il y a une situation initiale, nous l'avons dit, le texte dit, il y avait la famine et la sécheresse en Israël. Cela veut dire qu'il ne pleuvait pas, et parce qu'il ne pleuvait pas, il ne pouvait pas avoir les récoltes, et le peuple ne pouvait pas manger correctement et se rassasier. Pourquoi? Parce que le peuple était détourné de Dieu et invoquait à partir de là Baal. Je voulais faire une relation avec nous ce matin, l'Église du Seigneur. Frères et sœurs, les choses ne sont pas tout à fait roses, ni tout à fait verdoyantes de nos vies. Et je ne veux pointer le bras sur personne. Quelquefois, nous venons à l'Église, mais nous sommes affamés. Oh Seigneur, merci, au moins si nous sommes affamés. On a faim du Seigneur. Et il faut cette faim. D'accord? On a faim et soif du Seigneur. Mais il y a une réalité spirituelle qui est la suivante. Quelquefois, on est desséché. C'est la sécheresse spirituelle. Et ce matin, je voulais te dire, Mon frère, ma soeur, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps de sécheresse, mais comme le texte le dit, ce petit nuage a déversé une pluie torrentielle. Ce matin, je voudrais te demander, est-ce que tu crois que Dieu est capable d'envoyer une rosée dans ta vie ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire, au-delà de cette rosée, d'envoyer une pluie de bénédiction, aussi bien pour toi que pour ta famille, ton environnement, ton travail? Dieu est capable.
Amen.
Mais il faut le croire. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que si tu es dans cette situation, je voudrais te dire que tu as une église où tu peux te réunir. Tu as des diacres, tu as des frères et sœurs, des diacres, des anciens, tu as un pasteur. Quand on est en sécheresse spirituelle, on a besoin de l'autre pour se rafraîchir. Et ça, tu peux le trouver dans l'église. Mais tu as encore la parole de Dieu. Et plus encore, tu as Dieu lui-même, tu as Jésus, tu as ce Saint-Esprit. Rien n'est pas fini pour toi. Et je t'inviterai, mon frère, ma soeur, à faire comme le serviteur d'Élie, à monter et à regarder. Comme la soeur a lu le texte, il est monté 7 fois, n'est-ce pas? Et c'est à la 7e fois qu'il a vu un petit nuage. Mon frère, ma soeur, monte, 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 jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Il ne faut pas s'arrêter. Je t'invite à regarder l'attitude d'Élie. Au verset 42, il est dit, « Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et il se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. » Tu n'as jamais remarqué que dans une situation pénible, critique, plus tu pries, plus la situation devient pénible. Plus on prie, plus on ne voit pas le bout. Et on se dit, mais attends, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il faut baisser les bras? Non! Nous sommes des warriors.
Amen.
Amen! Dans le sens où on ne laisse pas tomber. Et on prie. Parce qu'on sait qu'on n'a pas la possibilité de changer les choses. Et que seul Dieu peut changer la situation. Donc, il ne faut pas cesser de prier. Prie, prie, prie tous les jours. Bien que la réponse à nos supplications, les plus arrogantes, les plus ferventes, frères et sœurs, ne viennent pas parfois rapidement. Nous devons continuer à prier avec ferveur. Et une église qui ne prie pas, frères et sœurs, c'est une église, certes, mais je pense qu'elle a perdu la flamme de son premier âme. Comme la sœur l'a dit, je vous invite à venir en réunion de prière. Non seulement, mais à prier à la maison. Il faut prier le Seigneur. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Est-ce que vous voyez à peu près l'image? D'accord? Ils sont Élie et là, sur la montagne, son serviteur va ici. Et à chaque fois, il redescend. Et quand il voit le petit nuage, certainement, il a dû mettre la main comme ça. D'accord? Il a dit, mais le nuage que je vois au loin, ça ne dépasse même pas l'espace de ma main. Donc, un petit nuage comme man. Mais il savait qu'à l'annonce de ce petit nuage, au loin, large comme une pomme de la main d'un homme, et il savait qu'il allait pleuvoir. D'accord? Frères et sœurs, je voudrais te poser la question ce matin. Comment vois-tu les choses? Mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, comment voyez-vous vos parents? Ils ne sont pas encore parfaits, n'est-ce pas? Oui, ils sont gentils, ils n'ont pas répondu. Ah là là! Ils ont fait simplement. Vous savez, ce oui antillais, n'est-ce pas? Ce oui antillais qui veut tout dire. Ça veut dire oui, non, peut-être. Parents, comment voyez-vous vos enfants? Quelquefois, on a un regard qui n'est pas celui de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on espère. Ah oui, mon enfant, je veux qu'il gagne bien sa vie, je veux que ceci, que cela. Mais comment pour l'instant tu le vois? Surtout quand elle fait voir. Merci. Les garçons. Est-ce que tu projettes sur lui quelque chose de bon? Est-ce que tu le bénis chaque matin? Ah, quand même, mon père est dans cette terre-là parce qu'il gagne énormément tellement. Ça peut s'entendre aussi que l'enfant est tellement agaçant que. D'accord, ça peut se comprendre. Mais il faut prier pour lui et le voir autrement que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est une petite plante. D'accord, néophyte. Demain, il va devenir un arbuste et il va porter du fruit. C'est formidable. Comment va ta fille, ma soeur? Plus ou moins. D'accord. Marie, comment vois-tu ton épouse? Mon frère Dominique, je crois que j'ai des problèmes pour toi, ce matin. Épouse, comment tu vois ton mari? Comment la famille se voit entre elles? C'est important de voir l'autre, mais de ne pas le voir avec nos yeux, mais de le voir comme Dieu le voit. N'est-ce pas? À chaque fois que le jeune homme revenait, il revenait avec un rapport négatif. Il n'y a rien qui se passe. À la septième fois, il a dit qu'il y a un petit nuage. Toi qui souffres de ton corps, toi qui as une pathologie ou qui as des pathologies, comment tu vois les petites améliorations? Les soulagements que tu t'apportes. C'est vrai, frères et sœurs, quand on lit la Bible, on voit des guérisons instantanées, prodiguées par le Seigneur ou ses serviteurs, et on se dit, Seigneur, guéris-moi. Et on veut que la guérison germe, boum! Mais c'est une question de foi, frères et sœurs. Non pas une question de foi seulement, mais une question de volonté de Dieu. Quelquefois, Dieu guérit petit à petit pour amener à la guérison. Quelquefois, Dieu guérit une fois pour toutes. Boum. Comment on voit nos démarches pour trouver un travail? Quelquefois, on se décourage là aussi. J'ai déposé les CV, rien, tout. J'ai passé des entretiens. Mais mon frère, ma soeur, regarde le fait que tu as passé des entretiens. Regarde le fait. Ah, vous croyez-moi, mais vraiment, c'est non, il va être moi chaque fois. D'accord, mais tu as passé d'entretien, tu as su, jour après jour, combattre cette timidité, et de plus en plus, tu t'exprimes bien, tu te vends beaucoup mieux, Comment vois-tu le fait d'avoir échoué à ton examen? Est-ce que tu penses que tu es un nul? Que rien ne va te réussir? Non! Je crois qu'en Dieu, il n'y a pas d'échec, frères et sœurs. Il y a des possibilités de recommencer les choses. Il n'y a pas d'échec. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes l'église? Nous t'es déjà monté en ciel, hein? Et nous l'a toujours. Je vais te dire une chose, même si Dieu nous a donné à tous une vision de son œuvre, de l'église, d'accord, mais quand je dis une chose, c'est l'église du Seigneur, hein? D'accord? Même si on est fâché, énervé quelquefois par rapport à ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, et on se dit, mais c'est vrai, ouais, que. Mais c'est l'église du Seigneur. Ne te fâche pas contre. Au contraire, je plie les genoux devant le trône de la grâce pour demander à Dieu d'aider. D'accord? Frères et sœurs, cette grâce divine se manifeste souvent par des faits apparemment insignifiants. Comme ce petit nuage que ce serviteur a vu au loin. Et bien souvent, les grandes bénédictions commencent par de petites choses. Par de petites choses modestes. Nous nous levons le matin et nous voulons que, quand on dit quelque chose, que la parole soit créatrice et que la journée se passe bien. À midi, on se dit, Seigneur, rien ne s'est passé. Qu'est-ce que tu en sais? C'est déjà une petite chose qu'on se soit levé le matin. Qu'on ait dit au Seigneur merci pour ta grâce. C'est une petite chose. Mais combien grande dans le monde spirituel? On rentre à la maison le soir, on discute avec l'époux, l'époux des enfants, tout et tout, et on se dit, bof, ma journée a été banale. Mais banale pour toi peut-être, mais pas pour Dieu. Il faut savoir, frères et sœurs, espérer, attendre les grandes choses, les grands événements que Dieu est en train de préparer avec de tout petits événements. Combien de fois, frères et sœurs, quel que soit le domaine, n'avons-nous pas vu des petits commencements atteindre de grandes dimensions? Si je prends des exemples, la Croix-Rouge a commencé, cette œuvre a commencé de manière insignifiante. J'ai lu comment McDonald's a pu ouvrir cette. Ça a commencé, il a commencé à faire un steak, le gars. T'imagines, tu fais un steak chez toi et puis boum, une idée. D'accord? Comment réagissons-nous quand nos enfants nous disent, maman, voilà, je veux être pasteur. Dis-le, Gabriel, tiens-moi, il était toi. Pourquoi? Parce que nous connaissons cette souffrance pastorale, nous savons que. Voilà. Mais Olivier Choura a fait un chant que j'apprécie énormément. Quand Dieu a mis un rêve dans ton cœur, persévère. Quelles que soient les difficultés, persévère. Quelles que soient les oppositions, persévère. Il en est ainsi. Quand Dieu commence son œuvre, il commence par des petites choses dans la vie de celui qu'il aime. Et je voudrais te dire une chose. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, Dieu va accomplir son œuvre. Je tombe encore au livre d'Esther. Quand la belle-mère d'Esther lui a dit, voilà, va vers Boaz et ceci et cela, il était question du salut d'Israël. Oui, regardez ça. Vraiment, hein. Elle ne voulait pas la dire que Dieu peut faire autrement. Mais à partir de là, sa belle-mère lui a dit, mais voilà, Dieu effectivement peut faire autrement, mais voilà ce qui va se passer dans ta vie. Tu ne seras pas béni. C'est vrai que Dieu peut faire autrement. Mais quand Dieu appelle un homme, quand Dieu met une vision dans le cœur d'un homme, il faut qu'il la réalise. Il faut qu'elle s'accomplisse dans sa vie. Sans quoi on n'est pas bien, on n'est pas épanoui. Je te conseille de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Combien de fois n'a-t-on pas dit, ah Seigneur, je n'ai pas la manifestation de l'esprit, je ne parle pas en langue, je ne fais pas, je chasse pas de démons, je ne fais rien dans l'église. Mais il faut savoir apprécier les petits débuts de cette manifestation de l'esprit. N'est-ce pas? Quand on regarde quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, l'esprit se dit, non, détourne le visage. C'est déjà un petit commencement. D'accord? On veut chasser les démons, mais il faut commencer par petit. Hein? Et après grandir. Il y a des temps comme ça, frères et sœurs, où on voit les choses, même les choses que Dieu fait de manière petite, insignifiante, où on ne considère pas, on ne porte pas attention à ça. Je voulais te dire que ce matin, les temps changent pour toi. Pour vivre autre chose, mon frère, ma soeur, il faut premièrement voir les choses autrement. Dieu peut nous bénir, mais si on voit ces bénédictions avec notre esprit d'aujourd'hui, hein, toujours à faire des cancans avec Dieu, toujours en médisant ce que Dieu fait, est-ce que cela nous sera profitable? Non. C'est-à-dire, nous pouvons vivre autre chose en voyant ces choses autrement. Le problème, ce ne sont pas nos rêves de grandeur. qui pose problème à Dieu. Le problème, c'est comment on voit ce que Dieu fait dans nos rêves de bonheur. À un moment donné dans ma vie, je n'étais pas à l'aise. Je voulais faire de grandes choses pour Dieu. Je voulais passer, et quand je touche quelqu'un, la personne se convertit. J'étais comme ça avant. J'avais ce truc. Oui, si vous voulez avoir un chien, je suis converti. C'est pour montrer comment j'avais cette niaque, d'accord, pour dire aux gens qui est Dieu pour ceci et cela. À un moment donné, je pense que mon épouse en avait assez. Elle m'a dit, stop, arrête-toi, assieds-toi. Et je te propose de faire une chose. Fais la liste des gens que tu as rencontrés dans ta vie. J'ai besoin de concret. J'ai pas besoin de méthode pour... Fais la liste, Fernand, fais la liste des gens que tu as rencontrés dans ta vie et regarde l'impact qu'ils ont eu sur ta vie. Regarde ce qu'ils t'ont dit. Retrace dans ton cœur ce qu'ils t'ont dit. Où est-ce et où ça a mis. Et je l'ai fait. Rencontrer telle personne qui m'a dit ça, rencontrer. Et je l'ai fait. Et j'ai vu en quelque part que ce que Dieu m'avait déjà mis à cœur était retracé dans toutes mes rencontres. Il y avait une logique. Et moi, je ne voyais pas cette logique. Oui. Mais il faut bien partir par un début. Il faut bien au commencement, Dieu. La Bible commence comme ça, par des étapes. Il aurait pu tout faire et voilà, au commencement, Dieu créa tout. Mais il y a bien dans le livre de la Genèse, quand nous lisons la Genèse, il y a bien premièrement une séparation. Des eaux du dehors, des eaux du dessus, d'en bas. Il y a bien une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il y a bien ces séparations. Dans nos vies aussi, il faut qu'il y ait des séparations. Ce que j'appelle la sanctification. Et après, il y a une réalisation extraordinaire. Dieu crée des choses. Mais il faut un commencement, frères et sœurs. Je voudrais te rappeler, ça tu le sais, que Dieu, ton Dieu, notre Dieu, ton Père, notre Père, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il est là, c'est pressé, nous presser, nous l'éviter. Mais on ne va pas aller plus vite que Dieu. Il faut laisser Dieu faire ses affaires, son œuvre en nous. Et bien souvent, on se lasse du fait qu'on ne voit pas ce que Dieu fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? On tombe, frères et sœurs, dans l'habitude. Puisque Dieu ne fait rien, ou du moins, parce que je ne vois pas ce que Dieu fait. Je tombe dans l'habitude, dans la routine. Et j'adapte ma vie à ce que moi, je ressens. Mais frères et sœurs, notre Dieu n'est pas un Dieu qui adapte les choses. Non, Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu, c'est le Dieu qui nous change afin que sa volonté soit puissamment développée dans nos vies. Non. Je voudrais t'annoncer ce matin, frères et sœurs, que peu importe ce que tu vis, tout peut changer car c'est ainsi que Dieu l'a décidé. La petite chose que tu vois dans ta vie, elle est en train de grossir afin de déverser une pluie de bénédiction. Il faut que tu le crois. La réussite d'un enfant de Dieu, c'est croire, frères et sœurs. Elle tient en quoi? Elle tient par la foi. Jacques le dit, mon juste vivra par la foi. S'il s'en écarte, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Tu veux que les choses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, mon frère, ma soeur, il faut que tu crois. C'est ce qui déclenche le miracle de Dieu en nous. Et par rapport aux petites choses, frères et sœurs, Zacharie le dit, chapitre 4, verset 10, ne négligez pas les faibles commencements. Je ne suis pas arrivé comme ça à la prédication. J'ai fait le parking, j'ai nettoyé l'église, j'ai fait l'école du dimanche. Oui. Mais oui. D'accord. Parce qu'il faut faut entendre hein, quand tu gardes comme ça, tu dis, non mon frère, garde-toi comme ça. Ah frère, attends, attends. Oui. Hein? Il faut savoir, voilà. Il faut bien voir ce que Dieu fait dans nos vies. Alors, je ne sais pas si tu es frustré ce matin parce que les choses ne bougent pas, tout et tout, mais relis le texte et tu vas voir, les choses n'ont pas bougé 6 fois. Quand il est monté sur la montagne, il n'y a rien qui se passait. Comment vois-tu ta vie en ce matin? Rien va bien passer. Pourtant, Dieu prépare quelque chose. C'est une petite chose. C'est à nous de changer nos regards sur ce qui se passe. Nous ne devons pas voir les choses de Dieu avec nos yeux spirituels. Nos yeux charnels. Mais bien au contraire, avec les yeux de la foi. Il ne faut pas que tu laisses tomber ton espérance, mon frère, ma soeur, de ce que tu attends, de ces bénédictions qui doivent arriver sur ta vie, de la situation qui doit changer dans ta famille, pour tes enfants, dans ton travail. Il y a une espérance qui est là et qui doit arriver. Je dirais comme Paul a dit à plus jeune que lui, Timothée, combat le bon combat de la foi. Ne baisse pas les bras. Cherche tout simplement à bien voir. Ta petite vie, mon frère, ma soeur, elle peut changer. Et une grande source de bénédiction peut abonder. Ce petit nuage, frère et soeur, a donné, je l'ai dit, une grande pluie. Cette petite obligation que tu as à ton travail ou bien dans l'église, ce petit service, ce petit machin que tu fais sans que personne ne te voie pour le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, un jour, Dieu va déverser une pluie de bénédiction. Un jour, cette chose va abonder. Il ne faut pas que tu te décourages, mais je voudrais en ce matin t'inciter à confesser que tu es plus victorieux en Jésus-Christ de Nazareth. Et que la volonté de Dieu s'accomplit dans la vie de son enfant. Ni de l'aide, nous mettre Satan plus gros que bon Dieu. Et nous allons dire, ah Satan cabaret, moi. Satan. Je rencontre un homme sur le pont là, vous savez, vous venez vers vous, il y a un pont. Je m'arrête et, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il était là, la tête dans les genoux, et puis, je le vois sangloter. Il m'a dit, vous êtes qui? Je dis, ben je suis Fernand. Il dit, ah, vous êtes chrétien? Je dis, oui. Vous allez au CED? Je dis, oui. Il dit, mais j'ai mal parce que ils disent à Dieu que c'est à cause de moi qu'ils ont tous leurs problèmes. Je dis, mais vous êtes qui? Il me dit, je suis Satan. Bien souvent, je les attaque, c'est vrai, mais tous leurs problèmes ne viennent pas de moi. Quelquefois, c'est eux-mêmes qui ne voient pas la gloire de Dieu. C'était une plaisanterie, une blague. D'accord? Je ne veux pas parler à Satan. Rassure-moi. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, quand on donne l'importance à l'ennemi de nos tables, on donne de l'importance à tout ce qui vient contrarier le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est plus grand? Donc, confesse, mon frère, ma sœur, que Dieu est grand et que tu es victorieux en Christ. Confesse la parole de Dieu. Dis à l'ennemi de ton âme, dis à Dieu lui-même, Seigneur, je suis confiant en ta parole. Tu m'as montré un petit nuage, je sais que ce petit nuage va être de gros nuages noirs qui vont déverser. Seigneur, je suis conscient que tu es en train de travailler dans ma vie. Les choses ne sont pas encore celles que j'espère, Seigneur. Mais c'est un petit commencement, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu as le pouvoir et la capacité d'amener à bien ce que tu as commencé dans la vie de l'homme. Ce qu'il y a de pire, frères et sœurs, ce n'est pas de mal commencer, mais bien de mal finir. N'est-ce pas? Et combien s'arrête au bord de la route parce que ce petit nuage, par la foi, ne s'est pas développé. Je ne veux pas que tu t'arrêtes au chemin, mon frère, ma sœur. Je veux te voir un jour à la table des saints et des prophètes. Et je voudrais qu'on partage le repas des noces ensemble. Et pour cela, il faut persévérer. Il faut croire aux promesses de Jésus. Oui et amen. Quand on regarde la vie de notre Seigneur et Sauveur, alors on voit ce plan dans la création, parce que Dieu a commencé avec de petites choses. Et quand on regarde la vie de Jésus, ben c'était un petit enfant emmailloté dans une mangeoire, dans une crèche. Et ce petit enfant, en devenant grand, il a impacté le monde de sa vie. Il a choisi que 12 disciples, frères et sœurs. Et aujourd'hui, où est-ce combien de disciples il y a au travers le monde? Les choses ont commencé avec un petit nombre. Et pourtant, regarde l'impact et l'ampleur de l'évangile aujourd'hui. Je te propose de prier. Je te propose de prier parce que c'est certainement le jour du changement pour toi aujourd'hui. Cette bénédiction que tu attends, ça fait un moment, en changeant ta manière de voir, les choses viennent. Nous inclinons la tête, nous avons les pensées fixées sur Jésus. Pensée fixée sur sa parole. Sur ce qu'il fait dans nos vies. Sur la manière dont nous vivons ce qu'il fait. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es encore celui qui travaille dans nos vies et qui fait de petites choses. Mais en ce matin, nous voulons changer notre manière de voir ce que tu opères dans nos vies. Nous voulons reconnaître ces petites choses comme des merveilles pour demain. Des merveilles qui impacteront non seulement nos vies, mais tout notre environnement. Seigneur, je suis conscient que tu m'as choisi pour faire partie de ton peuple. Je suis conscient que tu m'as choisi, Seigneur, pour œuvrer au sein de ton peuple. Oh, cet appel me fait peur, Seigneur. Mais en ce matin, je prends la résolution de changer mon regard, Seigneur, sur ce que tu veux faire de moi, au travers de moi. Non pas pour une vaine gloire, Seigneur, non pas pour la mienne, mais pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, je dis oui, me voici. Et je veux réaliser, Seigneur, que tu opères des miracles et des prodiges à chaque instant, à chaque souffle, Seigneur, que je prends. Ta bonté se manifeste, ta puissance agit. Oui, Seigneur, je veux continuer à persévérer dans la prière. Jusqu'à ce que tu opères un changement. Je ne veux point baisser les bras, ni m'asseoir, Seigneur, au bord de la route. Parce que, Seigneur, je ne suis pas un mendiant de la foi. Tu as déversé, Seigneur, une dose de foi en moi. Et je veux la manifester en ce matin. J'ai compris, Seigneur, que ton appel et tes promesses sont oui et amen. Que tu ne te repens pas, Seigneur, quand tu dis quelque chose. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je veux continuer à persévérer, Seigneur. Je veux continuer à voir l'impossible se réaliser dans ma vie. Ma situation financière, Seigneur, je te la remets. En contrepartie, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour gérer mes finances. Ma situation familiale, Seigneur, la voici ô combien j'ai envie d'un changement. Qu'un changement s'opère, Seigneur, parce que je n'en peux plus. Je suis à bout, Seigneur. Mon fils, ma fille, mes neveux et nièces, Seigneur, les voici. Où ça qui m'a dit qu'on a ici, mon Dieu. Alors, développe certainement ma patience, Seigneur. Et développe l'amour que tu as répandu dans mon cœur. Seigneur, ma situation sociale, elle est ainsi. Je cherche du travail, Seigneur. Et je ne vois pas. Est-ce que tu es en train d'opérer quelque chose, Seigneur, que je ne suis pas en train de voir là maintenant? Mais Seigneur, garde-moi dans le sentier de la foi. Garde-moi afin que je ne glisse, Seigneur, dans l'oubli de la puissance de ton nom. Seigneur, ton église, la voici. Oh, combien j'aspire à qu'elle soit glorieuse, sans rire, sans tâche, comme le dit David. Pardon si j'ai murmuré contre ceux qui la dirigent, Seigneur. Je me souviens maintenant qu'ils sont des hommes comme moi, et que certainement que moi, à leur place, je ne ferais pas mieux. Que je demande, Seigneur, de me donner assez de foi pour voir cette église un jour glorieuse, sans rire, sans tâche. Donne-moi à intercéder pour elle, Seigneur. Donne-moi à l'aimer avec ton regard. Seigneur, je te demande vraiment qu'on puisse changer de lunettes et qu'on puisse mettre les lunettes de la foi afin qu'on puisse voir ta gloire dans toutes les petites choses que tu fais dans nos vies. À ton nom, je veux donner toute la gloire qui t'est due dans le nom de Jésus. Amen.